Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du Vietnam et des Vietnamiens et de leur rapport, disons, à la guerre et aux conflits à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Tréglaudet, directeur du domaine Afrique, Asie, Moyen-Orient à l'IRSEM, spécialiste du Vietnam donc, sur lequel vous avez récemment fait paraître un livre intitulé Vietnamien, ligne de vie d'un peuple, aux éditions Atelier Henri Dougier. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors je vais simplement commencer par dire que ça peut sembler un peu étrange de consacrer une émission directement au Vietnam, alors c'est pas qu'on le fasse jamais, mais disons que quand on se penche sur un pays en particulier, en général c'est soit que c'est un acteur mondial de tout premier plan et une menace potentielle pour les équilibres géopolitiques planétaires, ou bien qu'il est en pleine guerre, ce qui n'est évidemment pas le cas du Vietnam en ce moment. Mais c'est un pays qui est particulièrement intéressant, déjà parce qu'il a un rapport à la guerre et aux faits militaires particuliers. Évidemment, c'est un territoire et une population qui ont été profondément marqués par la guerre à l'époque contemporaine, puisqu'ils ont été le théâtre d'un des conflits les plus importants du XXe siècle, à savoir la guerre du Vietnam, et ça laisse des traces évidemment dans un pays. Mais aussi parce que le Vietnam est le révélateur d'un certain nombre de choses et de dynamiques régionales, en particulier en ce qu'elles ont trait à la Chine, qui est évidemment le grand voisin au nord du pays. Alors je peux rappeler au passage que le régime vietnamien, c'est toujours donc un parti unique communiste qui est à la tête du pays depuis les années 70, ce qui est évidemment une similarité avec la situation chinoise et permet peut-être aussi d'y réfléchir en faisant un léger pas de côté. Et en même temps, c'est aussi une situation compliquée, voire très compliquée, parce que ce sont deux pays qui s'affrontent, alors légalement mais aussi parfois physiquement, en mer de Chine du Sud, pour le contrôle d'îles, quand c'est des îles, parfois c'est même des îles qui ne dépassent pas la surface de l'eau, et surtout des mers qui entourent ces territoires. Et de fait, le Vietnam joue un jeu intéressant, notamment avec les États-Unis, également dans le cadre de l'opposition croissante sino-américaine, même si on comprend bien qu'avec l'héritage des années 60 et 70 et un régime communiste, le pays ne va pas forcément se jeter directement dans les bras des États-Unis. Donc c'est aussi l'occasion de reparler de la mer de Chine du Sud et des choses un peu étranges qui s'y font, avec des milices flottantes de pêcheurs, des plateformes pétrolières et une sorte de lutte permanente pour le contrôle de certaines de ces eaux qui sont très disputées. Alors simplement, et pour commencer, puisque c'est vraiment plus que le grand voisin, mais c'est le très grand acteur, ou en tout cas l'un des très grands acteurs de l'histoire du Vietnam, est-ce que vous pourriez commencer par nous éclairer un peu sur les relations historiques, disons, sino-vietnamiennes, et en tout cas sur la manière dont le Vietnam, alors je vais donner un peu la clé, naît un peu le Vietnam contemporain, en tout cas, en s'extrayant de l'emprise régionale chinoise.
Alors l'histoire du Vietnam est un combat permanent dans une relation, dans une recherche de la distinction avec la Chine. N'oublions pas que la Chine a été la puissance occupante du Vietnam. Le Vietnam, le royaume du Sud, en fait du Sud de la Chine, a occupé le nord de ce qui est aujourd'hui le Nord Vietnam de 111 avant Jésus-Christ jusqu'au 939, donc jusqu'au 10e siècle. Donc pendant près de 10 siècles, en fait, ces provinces du Nord Vietnam d'aujourd'hui ont été assimilées par le pouvoir chinois, et c'était véritablement une logique de gestion, en fait, des territoires, de gestion des élites de manière extrêmement fine. Donc cette distinction de la culture vietnamienne, ça sera un combat pour les élites qui marquera l'ensemble de l'histoire et de la naissance du territoire vietnamien. L'histoire du territoire vietnamien depuis, donc effectivement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le début de l'indépendance vietnamienne au XIe siècle, c'est d'abord la conquête de son propre territoire. Et cette conquête du territoire, elle prendra des siècles. Le territoire vietnamien n'a jamais été homogène. Et alors, pour faire simple, il a été très souvent et très longtemps divisé en trois sous-régions, donc une sous-région du Nord, très sinisé jusqu'au XIe siècle, et peuplé majoritairement d'une ethnie qu'on appelait, ou qu'on appelle toujours aujourd'hui, l'ethnie Kinh. La région du centre, du centre Vietnam et du nord du sud Vietnam, qui auparavant était donc dirigée par un empire, des empires austronésiens, les empires Cham, qui se feront tampon entre, encore une fois, l'influence chinoise et l'émergence d'un sentiment national vietnamien. Et tout au sud, jusqu'au 7e siècle, un régime d'inspiration, en fait d'un régime Khmer, qu'on appelle le régime de Funan, et qui participera aussi à la définition identitaire de ce territoire vietnamien. Et du 11e siècle jusqu'au, on va dire, 17e siècle, l'ethnie Kinh vietnamienne au nord fera sa poussée vers le sud. Sa grande conquête du sud, ce qu'on appelle en vietnamien le Nam Tien, pour récupérer en fait du pouvoir et s'imposer sur ses concurrents et vietnamiser d'une certaine façon le territoire que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Vietnam.
Donc en quelque sorte, ça marque la frontière au nord et ensuite ils descendent vers le sud. Alors il faut évidemment avoir une carte sous les yeux, parce que le Vietnam, c'est vraiment très littoral, enfin, ça suit le littoral de ce qu'on appelle aujourd'hui la mer de Chine du Sud, mais donc ça part au nord, ça marque la rupture, enfin la frontière avec l'Empire chinois, et ensuite ça descend le long du littoral et ça agrège un certain nombre de populations jusqu'à former un ensemble plus ou moins homogène, c'est bien ça?
Effectivement, donc n'oublions pas que du nord au sud, le Vietnam c'est 1700 km en fait de distance, donc, et c'est une addition de cultures et de peuples différents, et qu'on le retrouvera effectivement aujourd'hui et au cours de l'histoire tumultueuse du Vietnam au XXe siècle, dans la division du pays entre le nord et le sud, la division en fait qui conduit le pays à ces fameuses guerres du Vietnam qui ont marqué le XXe siècle. C'est pas uniquement des proxy wars, en fait un conflit qui est venu de l'étranger à travers la guerre froide, à travers la décolonisation. Non, c'est aussi des problèmes internes au Vietnam que l'on retrouve au cours de siècles et qui fait en fait que il y a une spécificité, il y a une addition, il y a un agrégat culturel entre des cultures à la fois d'origine indienne, d'origine khmer, d'origine austronésienne, d'origine chinoise, qui se retrouvent dans ce melting pot qui fait que la nation vietnamienne a été toujours quelque chose à conquérir en fait, et qui est toujours qui a donné jusque dans ces périodes plus récentes, et je pense encore une fois plus précisément à la période communiste vietnamienne, à un permanent souci des autorités de construire un récit fédérateur, de construire un narratif national qui fait encore une fois que l'histoire est extrêmement difficile à appréhender dans le cas vietnamien, parce que chaque dynastie l'a réécrite.
Alors, on ne va pas non plus s'attarder infiniment sur le Vietnam médiéval puis moderne, en tout cas qui correspond à l'époque moderne pour nous, mais on peut dire que, évidemment, la France a un rôle dans l'histoire vietnamienne, alors depuis le 19e siècle. Donc simplement, est-ce que vous pouvez nous dire comment... Donc on sait que la France a eu une présence coloniale, a eu une emprise coloniale dans la région. Simplement, est-ce que vous pourriez nous rappeler donc quand et comment est-ce que la France prend pied dans la région, et surtout quel type d'emprise la présence française parvient à mettre en place sur ce territoire qui n'est plus et qui n'est pas encore le Vietnam, qui sera l'Indochine, la Cochinchine, enfin, c'est cette variété, disons, de statuts coloniaux sous tutelle française.
Alors, premier élément à garder en mémoire, c'est que la parenthèse coloniale française au Vietnam est plutôt de courte durée, si on regarde l'histoire et la longue durée, encore une fois. Je reviens encore une fois sur cette présence et cette influence culturelle des régimes asiatiques qui est bien plus forte en fait dans l'histoire du Vietnam, et qu'on retrouve aujourd'hui quand on parle d'un Vietnam qui se réasiatise, qui se tourne vers une Asie émergente.
Vous voulez dire qu'en 1000 ans de colonisation chinoise, ça a un peu plus d'influence qu'en 70 ans de colonisation française?
Tout à fait. Alors quand le président François Mitterrand est revenu, était le premier chef d'État occidental à se rendre au Vietnam en mars 1993, et qu'il a construit en fait la légitimité de ce retour de la France au Vietnam sur cette relation particulière entre nos deux États. Il parlait d'une relation qui, dans la logique du temps long, est extrêmement courte, moins d'un siècle, quand on regarde en fait la présence indienne, la présence austronésienne ou chinoise dans ce pays. Donc ça, c'est quand même important à garder en place, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes s'interrogent sur le pourquoi du comment de la disparition progressive en fait de la présence française dans le pays. Mais cette présence française, elle est certes liée à l'histoire de la colonisation, c'est certes une histoire particulière qu'il faut garder et toujours avoir en tête, mais elle est de courte durée par rapport à l'ensemble en fait des influences étrangères qui ont construit de l'intérieur l'identité politique du Vietnam. Donc pour revenir à la France, on dit généralement que le premier Français à avoir foulé et à avoir marqué en fait l'histoire de notre relation bilatérale est un missionnaire en fait né à Avignon à la fin du XVIe siècle, Alexandre de Rhodes, qui a traversé le pays au XVIIe siècle et qui a écrit en 1651 le premier dictionnaire romanisé de langue vietnamienne, qui était à l'époque un dictionnaire Han, donc chinois, vietnamien, portugais, et qui a jeté les bases d'une écriture romanisée qui aujourd'hui est l'écriture du Vietnam contemporain. Donc c'est ce premier français, un missionnaire jésuite, qui a marqué en fait, qui marque toujours en fait le mythe de notre relation bilatérale entre la France et le Vietnam. La colonisation va arriver plus tard, mais toujours basée sur cette idée en fait de défense en fait de la présence religieuse française au Vietnam, hein, de l'assassinat de quelques missionnaires français au milieu du 19e siècle. Va être aussi à l'origine d'une volonté française de prendre pied et de défendre en fait ses ressortissants sur le territoire vietnamien et jetant les bases du début de la colonisation française qui entre 1856 et 1887, hein, qui est la date qui marque la naissance officielle de l'Union française avec la réunion des trois sous-régions vietnamiennes, hein, la Cochinchine au sud, la Nam au centre et le Tonkin au nord, marquera le début de cette colonisation qui s'achèvera dans à Dien Bien Phu, cette fameuse bataille qui, entre janvier 1954 et le 7 mai 1954, marquera la fin de la période coloniale française au Vietnam.
Mais simplement, qu'est-ce qu'ils colonisent ? C'est-à-dire, alors ils colonisent des territoires, ils colonisent des populations évidemment, mais par rapport à qui, sur quel pouvoir est-ce qu'ils s'implantent ? Ce qui veut dire aussi quel, disons, facteur de résistance, de permanence il y a face à la présence coloniale française qui est sur donc disons un petit siècle.
À nouveau, c'est la même chose. Il y a toujours une administration vietnamienne qui s'est nationalisée et on va dire, et je vais faire très simple, qui s'est réunifiée à la fin du XVIIIe siècle où il y a un pouvoir impérial vietnamien qui règne sur l'ensemble du territoire vietnamien tel qu'il est connu aujourd'hui. Mais au début du XIXe, le nouvel empereur vietnamien commence à nouveau à subir les assauts de la Chine qui lui demande de retrouver une certaine vassalité d'un nouveau genre début du XIXe siècle. Et effectivement, quand les Français arrivent au milieu du XIXe siècle, ils ont affaire avec une administration vietnamienne bien en place, qui elle-même a affaire avec une administration chinoise qui est en train de revenir. Et donc, d'une certaine façon, la colonisation française, et encore une fois, ça peut avoir... il faut nuancer, mais a permis aussi à l'administration vietnamienne de se... détacher un peu plus encore de cette volonté chinoise de retour et en autonomisant son pouvoir par rapport aux pressions extérieures régionales. Et ça, c'est important de le dire. Pour la colonisation française, Alexandre, pardon, il y a une chose qui est très importante aussi à avoir en tête, c'est que le Vietnam n'a jamais été une colonisation de peuplement. Alors qu'en Algérie, c'est plus d'un million de Français qui vivaient dans le pays sur une population qui ne dépassait pas 9 millions, me semble-t-il. Au Vietnam, en 1940, il y avait 38 000 Français dans le pays sur un pays qui comptait 22 millions de Vietnamiens. Donc on est dans un autre rapport et un autre vis-à-vis culturel également. Il y avait certes une administration locale vietnamienne qui collaborait avec la France. Il y avait un gouverneur français. Il y avait véritablement une gestion un petit peu bicéphale du pouvoir. Mais il y avait une présence française qui était d'abord réduite aux villes. Il y avait assez peu de Français dans les campagnes. Donc il n'y avait pas de vis-à-vis culturel permanent et qui était plus courte. Certains... Il y a un grand intellectuel français qui a grandi au Vietnam, hein, qui s'appelle Paul Mus, qui a publié beaucoup de textes sur l'Asie et certains sur le Vietnam, dont un livre fondateur, en fait, pour les personnes qui s'intéressent au Vietnam contemporain. C'est Vietnam, sociologie d'une guerre, paru en 1952, et qui est un ouvrage qui n'est plus réédité aujourd'hui, mais que tout spécialiste du Vietnam a en tête, parce que c'est une bible, c'est vraiment un classique. Et lui, qui a beaucoup travaillé à la fin des années 40 pour le gouvernement français, quand on était en train de réfléchir à un retour du Vietnam, même si c'était compliqué dans le climat géopolitique de l'époque, lui avait conseillé et avait noté qu'il y avait quand même une méconnaissance entre Français et Vietnamiens sur place, et qu'on parlait de choses qui étaient parfois différentes, et que le retour de la France au Vietnam n'était pas forcément construit sur une compréhension du terrain, du territoire et des peuples assez fines, et que la relance de la guerre entre nos deux pays en décembre 1946, avec le bombardement de la ville de Haiphong, qui va lancer le pays dans une guerre meurtrière qui va durer jusqu'à 1954, c'est un peu construit sur des logiques qui étaient parfois extérieures véritablement à l'histoire de nos deux peuples et de la colonisation.
Ouais, alors évidemment, faut revenir quand même un peu sur ce moment, sur cette parenthèse aussi de la Seconde Guerre mondiale, où évidemment c'est compliqué, parce que l'Indochine c'est loin, donc que choisir? Vichy, la France libre, bon, enfin bon, c'est pas, a priori pas la France libre qu'ils vont choisir pendant un certain temps en tout cas. Il y a aussi une parenthèse, parce que bah, donc l'Indochine c'est loin, et que le Japon en fait prend possession du territoire pendant une large portion de la Seconde Guerre mondiale, alors d'abord empiriquement, et puis à la fin, ils vont encore plus nettement. Et donc, il y a, à partir de 1945, la France revient, et c'est le contexte d'une guerre de décolonisation contre la France que vous évoquez. Alors, simplement, on n'est peut-être pas obligé de refaire tout le déroulé de la chose avec Dien Nguyen Phu, tout ça, il suffit d'ouvrir un manuel de terminal, ou encore mieux, de regarder un film de Schindler, par exemple, la 317e section, pour avoir en tout cas un sens de ça. Mais ma question, c'est, au-delà des événements, au-delà de la guerre, quelle trace ça laisse, cette présence française et puis cette guerre, pour s'en défaire? C'est-à-dire, quelles traces mémorielles, mais aussi les traces en termes d'emprise du fait militaire dans la société indochinoise qui reconquiert son indépendance, etc. Cette société indochinoise qui, bon, vietnamienne, quoi, à partir de 1954, qui redevient indépendante, quels souvenirs, quelles traces, quelles cicatrices elle garde de la colonisation et puis de la guerre de décolonisation?
Alors, l'histoire du Vietnam est à répéter, est à réécrire au fil en fait des dynasties qui l'ont dirigé, au fil des pouvoirs qui l'ont dirigé. Donc l'histoire de la guerre d'Indochine, de la guerre franco-vietnamienne, elle est profondément liée en fait à l'émergence du pouvoir communiste au Vietnam, qui est né de cette guerre et qui a cherché à se construire sur la mémoire de cette guerre. Donc plus que faire un bilan de la colonisation au Vietnam, aujourd'hui, quand on travaille sur le Vietnam contemporain, on fait référence véritablement à des élites qui ont construit, qui ont bâti année après année une généalogie en fait de leur pouvoir sur l'influx, on va dire, positif, patriotique d'une victoire de paysans vietnamiens contre l'envahisseur ou la puissance coloniale française, occidentale. C'est aussi un rapport très fort en fait au Vietnam dans le rapport à l'homme blanc, que ça pouvait être aussi cette victoire qui était non plus pas uniquement une victoire contre la France, parce que rappelons-nous qu'à partir de 1949, la guerre française au Vietnam est financée en grande majorité par les États-Unis.
Mais alors justement, d'où est-ce qu'il vient, parce que j'y pense, d'où est-ce qu'il vient ce pouvoir, cette influence communiste, cette diffusion d'une logique et d'un mouvement politique, quoi, le communisme, parmi ces élites vietnamiennes? Est-ce que ça vient, je sais pas, par exemple, encore du Nord, du fait que bah, y a une guérilla communiste en Chine depuis longtemps, depuis une trentaine d'années au moins? Est-ce que s'il y a des facteurs plus endogènes, des élites qui s'emparent de ça pour des raisons politiques diverses? D'où ça vient? Pourquoi les Vietnamiens sont-ils devenus communistes? Très simplement.
Alors, la colonisation française a généré très tôt, en fait, des résistances. Il y a eu des mouvements à la fin du 19e siècle, donc le plus célèbre est le mouvement Can Vương à la fin du 19e siècle qui a fait émerger en fait des rebelles, des lettrés patriotes qui protestaient en fait contre la mainmise en fait du pays par la puissance coloniale. Il y a eu par la suite des nationalistes qui ont proposé des solutions également à eux pour émanciper le Vietnam de la puissance étrangère. Le Parti communiste indochinois a été créé en 1930. À l'étranger, à Hong Kong à l'époque, naturellement avec le soutien du Comintern, avec une logique qui n'était pas uniquement liée au Vietnam, qui était commune à l'ensemble des pays dits du tiers-monde à l'époque, de libération de la puissance de ces peuples opprimés par la puissance coloniale. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, dans les années 30, un mouvement de résistance dit communiste a émergé au Vietnam, mais il y avait parallèlement d'autres types de résistance, en fait, nationalistes, etc. Et c'est cette complexité du paysage de la résistance vis-à-vis de la colonisation qui s'est finalement dénouée au profit des communistes qui ont écrasé leurs opposants. En fait, il y a eu entre 45 et 48 des luttes très féroces entre les mouvements nationalistes vietnamiens qui voulaient libérer le pays et les communistes vietnamiens qui avaient leur façon aussi. Donc il y avait qui voulait revendiquer le monopole de cette résistance contre la puissance française. Et donc, une fois que les Vietnamiens ont réussi sur leur propre territoire à récupérer, en fait, à obtenir ce monopole de la résistance contre la France, ils ont tout fait pour chercher un soutien à l'étranger. Il faut savoir que les premières années de la guerre contre la France, le petit groupuscule de communistes vietnamiens qui était caché dans des grottes dans la province de Cao Bang à la frontière chinoise tout au nord du Vietnam, et ben ils étaient isolés. Personne ne les aidait. À Moscou, on ne voulait pas entendre parler de ces gens-là. La Chine avait d'autres chats à fouetter jusqu'à sa prise du pouvoir de Mao Tse-tung donc en octobre 1949. Personne ne les aidait. Et donc, ils ont effectivement tout fait pour d'abord récupérer en fait, le monopole de la lutte en interne, et ensuite ils ont essayé de mobiliser à l'extérieur de leurs frontières pour avoir un soutien qui était avant tout un soutien militaire et financier, il ne faut pas se cacher, c'était pas purement idéologique à cette époque-là, et en 1950, soudainement, l'Union soviétique reconnaît diplomatiquement le petit mouvement communiste vietnamien. La Chine fait de même. Staline confie à Mao Tse-tung la conduite en fait du soutien à l'armée Viet Minh et tout va changer tout va basculer à partir de cette période-là. Le printemps 1950 est une date mais fondamentale pour comprendre le tournant de la guerre et l'intégration ou l'émergence d'un nouveau communisme à la vietnamienne.
Alors donc on sort en 54 de cette guerre, on sort par une victoire, on sort par un parti communiste dont vous nous l'avez dit, il porte en décoration cette lutte anticoloniale contre la France. Et comment est-ce qu'il met en place son emprise sur le pays et ensuite, justement, il met en place que partiellement son emprise sur le pays puisque ça va amener au conflit ultérieur. Mais donc en quelque sorte, comment est-ce qu'on arrive dans cette situation de la France est partie, mais il y a encore des choses à conquérir pour un pouvoir communiste qui a, dans une certaine mesure, toujours besoin de nouveaux succès aussi, même après le départ français.
1954, c'est Dien Bien Phu, mais c'est également les accords de Genève qui prévoient, en fait, dans le cadre du retour de la paix au Nord-Vietnam, qui prévoient, en fait, un référendum à terme au pays entre l'entité sud-vietnamienne et l'entité nord-vietnamienne pour déterminer un retour à la paix sur l'ensemble du pays. Mais comme nous étions en pleine guerre froide, comme en Corée, on l'a vu quelques années précédemment, on a vu l'émergence à cette époque-là au Sud-Vietnam d'un régime nationaliste fortement soutenu très rapidement par les Américains et d'un régime communiste, on appelait ça à l'époque la République démocratique du Vietnam au Nord-Vietnam, donc fortement soutenu par la Chine et par l'Union soviétique et l'ensemble du camp socialiste. Donc très rapidement, l'idée du référendum même sera oubliée et les tensions naîtront entre deux régimes antagonistes soutenus par le camp américain et le camp des pays socialistes de l'autre côté. C'est qu'en 1959, et contre l'avis de Pékin, et contre l'avis, et ça c'est important de le dire, parce que c'est dans le narratif révolutionnaire vietnamien, c'est une date importante, les Vietnamiens n'ont pas suivi l'avis de leurs grands frères chinois en 1959, quand ils ont décidé de relancer le pays vers la guerre et de reconquérir le sud du Vietnam qui leur était perdu et qui était occupé par les impérialistes, parce qu'on parlait comme ça à l'époque, américains, avec leur gouvernement sud-vietnamien fantoche.
Donc, on parle toujours un peu comme ça, pas forcément au même endroit. Mais...
Et à partir de ce moment-là, le pays est reparti dans une logique en fait de guerre, mais aussi de renforcement de son pouvoir politique. Parce que ces guerres vietnamiennes, ce communisme vietnamien, il a aussi construit des généalogies de pouvoir, des familles de pouvoir qui sont aujourd'hui toujours très très présentes et qui trouvent leur légitimité justement dans ces grandes étapes guerrières de l'histoire du Vietnam contemporain.
Alors évidemment, la grande étape guerrière suivante, c'est la guerre du Vietnam, avec, on est assez familier à la chose, mais on voit ça toujours ça du point de vue américain, donc le traumatisme, la génération sacrifiée, l'impasse, l'entêtement du pouvoir politique américain, etc., mais parce qu'on est plus familier avec la culture et la mémoire américain que vietnamien, c'est comme ça, enfin, même dans les films, les Vietnamiens, c'est un arrière-fond, c'est des gens qui sont... tués, qui sont bombardés au napalm, etc. À la rigueur, le plus qu'on voit des Vietnamiens, c'est peut-être dans Apocalypse 9, dans les scènes finales, où, et encore, on pourrait évidemment sans doute critiquer la vision des Vietnamiens qu'il y a là-dedans. Mais justement, du point de vue vietnamien, si on renverse la perspective, et de la société vietnamienne, mais de l'armée aussi d'ailleurs, comment est-ce qu'on... Alors, évidemment, il y a le moment de la guérilla, etc., plus la grande victoire, mais comment est-ce qu'on en sort d'un conflit comme ça, d'une quantité de bombes astronomiques, on peut rappeler qu'il y a plus de bombes que pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été déversées sur le Vietnam. Comment est-ce qu'on en sort en 73, en 75? Comment est-ce qu'on reconstruit un pays, ou peut-être comment est-ce qu'on sort avec un pays renforcé dans une certaine mesure d'un tel déluge de violence sur un territoire qui a résisté?
Alors d'abord, cette guerre, elle a été marquée par une transition, un passage à témoin, en fait, au niveau des élites politiques. Ho Chi Minh, l'homme aux mille pseudonymes, disparaît le 2 septembre 1969. De facto, il n'avait plus le pouvoir réel en sa main depuis le début des années 60. Hein, c'est son secrétaire général du Parti du Travail, l'ancêtre du Parti communiste vietnamien, Lê Duẩn, qui avait tous les pouvoirs en sa main. Donc on a assisté à un passage de témoin, la génération de Vo Nguyen Giáp, le général vainqueur de la bataille de Dien Phu, n'était
Alors
plus...
Alors vous dites avec un très bel accent vietnamien, mais on l'appelle le général Giáp, généralement avec notre accent un peu franchouillard.
Pendant la guerre américaine, il n'avait plus véritablement le pouvoir, c'était un autre général dont je ne parlerai pas maintenant, qui donc voilà, ça c'est, on a une affirmation d'une nouvelle élite au pouvoir qui s'est renforcée et qui s'est nourrie de cette seconde guerre, de la guerre américaine. Ensuite, le tournant de la guerre, c'est l'offensive du Tet en février 1968, où là, les stratèges vietnamiens, l'armée populaire du Vietnam, ses généraux, étaient sûrs que le pays allait progressivement sortir gagnant de cette affaire. Et leur obsession à ce moment-là, oui, c'était véritablement de ne pas voir émerger une nouvelle résistance concurrente au communisme, au sud Vietnam, et il y a eu un énorme travail en fait des communistes vietnamiens pour pouvoir prendre la main et récupérer le monopole des organisations de résistance sud vietnamiennes entre 68 et 73.
Juste pourquoi ils en étaient sûrs enfin je veux dire c'est quand même très compliqué de combattre les États-Unis quand bien même ce serait sur son sol. Donc pourquoi comment est-ce qu'on peut avoir une certitude d'une guérilla sur d'une évolution sur le temps long?
Il y a d'abord un tournant géopolitique majeur avec la reprise en fait du dialogue fait par des Américains avec les Chinois, avec la visite de Nixon à Pékin. Et ça, les Chinois étaient informés dès le départ. Ils en ont informé les Vietnamiens également, et ils sentaient, les politiques, les diplomates, les militaires sentaient un tournant géopolitique qui allait forcément jouer en leur faveur, parce que ce conflit ne serait plus forcément alimenté de l'intérieur aussi férocement en termes d'hommes, en termes de matériel, en termes d'argent par les Américains sur le territoire. Ils avaient assez peu confiance en la solidité en fait du pouvoir sud-vietnamien, qui était notoirement connu pour sa corruption, son manque de popularité sur le territoire, et qui pour eux n'a jamais représenté un danger de sécessionniste important pour leur avenir. Donc il y avait plusieurs indicateurs qui disaient que c'était qu'une question de temps, ils allaient gagner. Et si vous regardez des textes en fait de propagande, ou même si vous voyez des textes d'archives en provenance du Parti du Travail dans les années 50, très, très tôt, en fait, les idéologues vietnamiens étaient certains, c'est peut-être qu'il y avait un aspect de rhétorique, bien sûr, mais très tôt, ils étaient certains qu'ils allaient gagner, en fait, que c'était une guerre légitime qu'ils étaient en train de conduire. Et c'est ça aussi le communisme, qui faisait qu'il y avait un sens de l'histoire, et que ce sens de l'histoire, il était du côté du Nord-Vietnam. Et ça a participé également aussi à la propagande du pays, mais également à sa capacité à croire que la victoire était là. Across the ocean, far beyond the sea's eastern rim, lives a man who is father of the Indo-Chinese people, and his name it is Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. From Viet Bac to the Saigon Delta, from the mountains and the plains below, young and old workers, peasants and the toiling tenant farmers fight for freedom with Uncle Ho. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Now Ho Chi Minh was a deep sea sailor. He served his time out on the seven seas. Work and hardship were part of his early education. Exploitation is ABC. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. On Ho Chi Minh came back from sailing, and he looked on his native land, saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people, foreign soldiers on every hand. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Now Ho Chi Minh went to the mountains, and he trained a determined band, heroes all who had sworn to free the Indo-Chinese people and drive invaders from the land. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. 40 men became 100, 100,000, and Ho Chi Minh forged and tempered the army of the Indo-Chinese people, freedom's army of Viet Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Every soldier is a farmer. Comes the evening and he grabs his hoe. Comes the morning, he slings his rifle on his shoulder. This the army of Uncle Ho. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. From the jungles and the mountains, from the rice lands and the plain of reeds, march the men and the women of the Indo-Chinese army, planting freedom with victory seeds. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. From Viet Nam to the Saigon Delta, march the armies of Viet Minh. And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people, peace and freedom and Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho!
Alors, quand on en sort de cette guerre du Vietnam, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de dynamique qui paraît compliquée à arrêter, parce que on peut dire que les guerres ne s'arrêtent pas après le départ américain, notamment parce que il y a une invasion et une occupation du Cambodge ensuite, à partir de 1979, c'est ce qui va mettre fin au régime des Khmers Rouges, une occupation pendant 10 ans du Cambodge, mais ça déclenche une guerre avec la Chine sur la frontière, etc. Donc comment, enfin, j'ai envie de dire presque la question, c'est comment est-ce que Comment est-ce qu'on sort de cette habitude de faire la guerre? Est-ce que un pouvoir qui a été construit à ce point-là sur des guerres de guérilla, disons d'insurrection, peut à un moment sortir de cet élan guerrier? Ou est-ce que, dans une certaine mesure, bah, il se retrouve à multiplier les fronts parce que bon, bah, il sait faire que ça, c'est une société qui est militarisée, c'est un pouvoir qui est aussi politique mais aussi militaire, et que donc bah, il y a un moment où c'est compliqué de sortir de ce mouvement, quoi.
Alors, il faut revenir aussi, encore une fois, en arrière. D'abord, la politique étrangère et de défense vietnamienne n'a pas de tradition expansionniste en au-delà de ce qu'on appelle sa zone de proximité culturelle. Et là, en l'occurrence, on parle de ses voisins directs, le Cambodge et le Laos. Si on revient à 1930, la création du Parti communiste indochinois, les 20 premières années, en fait, d'existence de ce parti, les Vietnamiens avaient vocation à conduire la révolution de leur petit frère Lao et Khmer. Donc il y a toujours eu ce sentiment, en fait, pour les Vietnamiens et pour les communistes vietnamiens, ils l'ont repris, bien sûr, pour eux, qu'ils avaient un devoir et ils avaient une logique à protéger ou à s'ingérer, on dirait aujourd'hui, dans les affaires de leurs voisins directs, le Cambodge et le Laos. Bon, le Laos, en 1975, un régime communiste a pris le pouvoir sur le même mode qu'au Vietnam en avril 1975, et la question ne se posait pas tellement. Par contre, effectivement, l'arrivée dans une même chronologie des Khmers Rouges au pouvoir à Phnom Penh, soutenue très fortement par la Chine, alors que la relation entre Pékin et Hanoï s'est détériorée complètement à partir du début des années 70, ça a rapidement été quelque chose de compliqué à vivre pour les communistes vietnamiens. Et à ce moment-là, effectivement, là, on est reparti dans une logique guerre froide. Il y a eu un affrontement entre les soviétiques qui se sont mis à soutenir massivement les Vietnamiens. Le Vietnam est rentré à ce moment-là dans le Comecon, cette organisation économique, en fait, du camp socialiste. Et il a reçu énormément de soutien financier. Il a vécu en perfusion, l'économie vietnamienne a vécu en perfusion totale de l'aide soviétique et pendant près de 20 ans, dans les années de 1975 à la fin des années 80. Et militairement, son armée était très dépendante, effectivement, de l'Union soviétique. Donc ce retour des grands enjeux, en fait, de guerre froide sur le terrain stricto sensu vietnamien a nourri aussi, effectivement, cela. Et l'intervention du Vietnam au Cambodge pour faire tomber le pouvoir de Pol Pot. Et c'était aussi a conduit à une relance du conflit ouvert avec la Chine, avec la guerre éclair de février 1979. Mais on l'oublie trop souvent, cette guerre éclair qui ne s'est pas arrêtée en quelques jours suite à l'intervention du Conseil de sécurité. Cette guerre éclair qui a continué.
Dire, c'est simplement donc sur la frontière nord, des régions montagneuses. La Chine gagne du territoire, prend un certain nombre de routes. Et puis à un moment, on fait demi-tour en disant bon, on a prouvé ce qu'on avait à prouver, on peut aller jusqu'à Hanoï si on veut, mais on ne va pas y aller. Mais de fait, ce que vous nous dites. Enfin, donc ça, c'est un épisode de guerre, mais qui marque aussi enfin, cette espèce de tango un peu.
C'est étrange. Un épisode de guerre, mais qui n'est pas encore une fois. Et il faut l'avoir en tête pour comprendre le présent de la relation entre la Chine et le Vietnam. Ce n'est pas une guerre éclair, c'est une guerre qui a duré une décennie. Les derniers coups de mortier qui ont frappé le Nord-Vietnam, en l'occurrence ce qu'on appelle le district de Chung Rinh, qui est au nord de la province de Cao Bang, à côté de la Chine, et sur un lieu assez symbolique, en fait, de la culture vietnamienne, les fameuses chutes de Ban Zop. Ce district, il a été frappé jusqu'à juillet 1989. Et dans toutes les années 80, il y a eu des batailles assez violentes et sanglantes entre les deux armées, de manière sporadique, certes, mais les relations étaient compliquées. En mer de Chine méridionale, en 88, la marine chinoise a coulé un navire vietnamien avec près de 90 Vietnamiens à bord. Cette relation n'est pas, encore une fois, limitée à une crise sporadique sur la frontière nord du Vietnam en 1979. Et petite anecdote, et c'est très récent, cette année, en fait, une sorte de drama ou une sorte de série chinoise a été réalisée et diffusée sur le net en Chine, faisant autour de cette bataille de 79, en réécrivant totalement l'histoire, en mettant en avant le fait que c'est le Vietnam qui avait envahi la Chine de manière agressive en 79, alors que la réalité, tout le monde sait que c'était l'inverse, et en construisant une romance autour de cette histoire, mais qui réécrit totalement récit national.
Alors donc la question, c'est comment il passe à ce chapitre suivant, c'est-à-dire donc c'est évidemment toujours un régime communiste, ça l'est encore à l'heure actuelle, c'est toujours un régime relativement martial, puisque c'est un pays qui a connu la guerre, disons, sans interruption pendant 40-50 ans, mais en même temps dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, il y a aussi un grand mouvement de changement, d'ouverture, alors relative, mais d'ouverture quand même. Je vais pas donner le nom, je crois que ça s'appelle le Doi Moi, donc une espèce d'ouverture, j'ai envie de dire une espèce de perestroïka, mais les parallèles ne sont pas forcément toujours pertinents. Mais donc, comment dire, comment est-ce que... Parce qu'il y a aussi un parallèle évident avec la Chine, c'est-à-dire c'est toujours un régime communiste, mais qui en même temps a connu une conversion massive à l'économie de marché, qui s'est ouvert, et qui en même temps a essayé de ne pas perdre son identité, ou en tout cas en apparence. Donc comment est-ce que le Vietnam s'est reconstruit en gardant un aspect extérieur, en tout cas théoriquement, et en même temps ça s'est profondément renouvelé, en tout cas économiquement et internationalement?
Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Donc, la première, c'est effectivement l'extrême pragmatisme, en fait, des autorités vietnamiennes depuis toujours. Quand on parle de catégories, on va dire, ou d'idéologie en Occident, on a parfois tendance à y mettre des choses assez rigides, assez fixes à l'intérieur. C'est quelque chose qui est beaucoup moins le cas vu d'Asie, où le communisme a toujours eu... C'est une machine à outils, en fait, pour le Vietnam pendant très longtemps. C'était une idéologie qui fonctionnait. C'était surtout une idéologie de pouvoir qui a permis à une élite de se libérer des puissances étrangères et de construire un régime, des institutions et de contrôler une population. C'est ça, en fait, si je résume en trois idées clés, l'atout premier, en fait, pour les élites aujourd'hui de ce qu'on appelle le communisme qui... On parle plutôt de régime autoritaire plutôt que de régime communiste. Voilà. Seconde chose, faut revenir aussi au climat qui était celui des années 80. Je vous ai dit que l'Union soviétique tenait en fait sous perfusion l'économie vietnamienne et le nouveau pouvoir vietnamien qui était fragilisé par son occupation du Cambodge. Pendant toutes les années 80, l'armée vietnamienne a occupé le Cambodge et qui était aussi fragilisée par une nouvelle défiance sur la scène internationale. Les boat people qui ont fui massivement en fait, le pays ont véritablement abîmé l'image du Vietnam sur la scène internationale et les soutiens se sont faits plus rares. L'Union soviétique était là. Elle aidait toujours le pouvoir vietnamien, mais la situation économique sur le territoire dans les années 80 était catastrophique. La population avait souvent faim. Il y avait véritablement un niveau de corruption incroyable. Pour la petite histoire, en 1982, l'Union soviétique a dépêché, lors du congrès du Parti communiste vietnamien, un émissaire qui deviendra célèbre quelques années plus tard, parce que c'était Gorbatchev lui-même, qui est venu faire la leçon aux Vietnamiens pour leur dire que fallait faire attention, parce qu'il y avait quand même beaucoup de déperdition, en fait, de cette aide des pays socialistes qui passait dans la poche des élites locales, etc., et qui faisait que les barrages construits, les routes construites étaient souvent de mauvaise facture, et qu'il y avait beaucoup, voilà, et que l'Union soviétique était consciente de cela, et qu'il fallait faire attention, parce que peut-être que cette aide allait se tarir si rien n'était fait localement, ou s'il y avait trop d'argent détourné. Concrètement, ce qui s'est passé dans le bloc soviétique explique l'histoire contemporaine du Vietnam. Le Doi Moi, ce fameux Doi Moi, cette politique, ce tournant économique, était un réflexe patriotique, pragmatique que les Vietnamiens ont fait comme n'importe quel État dans le globe pour éviter de chuter, de disparaître. Le pays avait besoin d'argent, il fallait qu'il ouvre ses frontières. Ce n'était pas une volonté politique véritablement réformiste. Et la preuve, quand... Quelques années plus tard, le mur de Berlin s'est écroulé en Europe. Les dignitaires vietnamiens étaient extrêmement inquiets. Ils n'avaient qu'une crainte, c'était que cette chute des communismes européens allait venir en Asie et qu'il fallait absolument trouver une façon d'empêcher cela. Et que l'ouverture économique du pays n'allait pas conduire à une ouverture politique et à une fin de leur régime comme en Union soviétique qui en 1991 disparaît pour rentrer dans cette décennie compliquée pour l'histoire de la Russie qui a été observée très près par les élites vietnamiennes. Et très clairement, la déconnexion était faite. Il fallait que le pouvoir vietnamien ne suive pas cette pente terrible et fasse tout pour pouvoir préserver le rôle du Parti communiste vietnamien dans la société vietnamienne et surtout, ne le cachons pas, le maintien au pouvoir de ces mêmes familles de pouvoir depuis les années 50.
Mais alors comment est-ce que, si on revient un peu à un plan un peu plus militaire et international et disons stratégique, comment est-ce qu'on passe un paradigme suivant, après l'invasion du Cambodge, le retrait du Cambodge, donc là, bon, des relations toujours compliquées avec la Chine jusqu'en 89, mais bon, même encore depuis, on va le voir encore, le grand frère soviétique qui s'effondre, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils s'imaginent et comment est-ce qu'ils même théorisent leur place en Asie et leur place d'un point de vue militaire, je crois qu'il y a une doctrine, c'est la doctrine des trois noms, c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire, ils ont théorisé quelle pouvait être la place d'un régime comme le Vietnam dans cette région et même au-delà, par rapport à des grands acteurs. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il en sort de cette nouvelle place, en tout cas, qu'ils souhaitent donner au Vietnam dans la région ?
À nouveau, ce qui importe pour les élites vietnamiennes, au début des années 90, c'est de faire en sorte que leur population ne se soulève pas. L'enjeu et l'inquiétude première, c'est pas de contagion. Pas de contagion sur les révolutions qui ont bouleversé le continent européen. Et donc il faut absolument éviter cela. Et dans les années 90, même 2000, il y a eu plusieurs soulèvements paysans qui ont véritablement suscité de l'inquiétude pour les dirigeants vietnamiens et qui ont été... on va dire, contrôlé efficacement par les autorités. Et donc ça, c'était vraiment la première chose, faire en sorte que ce pays jeune, parce que progressivement, une grande partie de la population vietnamienne n'avait pas connu la guerre, était née après 1975. On parle d'un pays aujourd'hui qui a bientôt 100 millions d'habitants, qui est de plus en plus déconnecté avec la réalité de la guerre. La guerre cambodgienne, elle était lointaine et puis elle était plutôt une occupation du territoire parce que les poches de résistance Khmer Rouge étaient vraiment très loin du côté de la frontière thaïlandaise. Donc c'était un conflit complètement dématérialisé. Et puis la guerre américaine ou la guerre française avant, et ben les générations étaient passées et c'était quelque chose qui était plus désormais au niveau de la mémoire et de la reconstruction portée par les élites. Donc, voilà, quoi. La chose qui était le plus proche, c'était la difficulté de la relation avec Pékin. Mais cette difficulté de la relation avec Pékin, encore une fois, elle est nourrie par des siècles de vis-à-vis compliqués, avec des allers-retours, des invasions, des retours, etc. Donc cette petite décennie violente des années 80 pouvait terriblement aussi être fermée, être effacée. Et donc c'est ce qui s'est passé avec la normalisation des relations sino-vietnamiennes qui datent de 91 et qui est aussi motivée par la même chose. Encore une fois, on ne prend pas suffisamment en considération l'objectif et le ressort premier des élites dirigeantes de ce pays, qui est celui de permettre à sa population de devenir riche, de s'enrichir, d'éviter de se rebeller. C'est la motivation première des élites. Et cette relance des relations et du dialogue avec Pékin, il était avant tout motivé par des raisons économiques, par des raisons commerciales.
Et donc ces trois noms, c'est non aux alliances militaires, non aux bases militaires étrangères, alors ce qui a vraiment du sens quand on pense qu'il y a les Philippines pas loin et la base de Guam, etc. Enfin bon, la base américaine de Guam qui est vraiment pas loin, et non à une coopération, à une alliance avec un pays contre un autre. Donc bon, qu'est-ce que ça traduit, disons, de l'imaginaire stratégique vietnamien, cette doctrine ?
revenons sur le fait que les accords de Paris qui mettent un terme à l'occupation vietnamienne du Cambodge, c'est aussi un moment clé pour la reconfiguration, la transformation de l'armée vietnamienne. L'armée vietnamienne, jusqu'à la fin des années 80, était une armée populeuse, extrêmement nombreuse, mal armée, mais armée quand même, et était donc de facto, quantitativement, une des armées les plus importantes du monde. On l'a un petit peu oublié. Les années 90 ont transformé complètement l'appareil militaire vietnamien, et d'une certaine façon l'appareil sécuritaire vietnamien, et ont mis en avant en fait, les nouveaux enjeux stratégiques pour le pays. Faudra attendre le premier livre blanc sur la défense vietnamienne, date de 1998. Il met en avant quelque chose qui est nouveau au Vietnam. Le Vietnam n'a pas de tradition maritime, malgré une façade maritime qui est immense, hein, 3260 km de frontière avec la mer. Et puis, vous l'avez évoqué en début d'émission, Alexandre, cette question qui est ancienne, qui n'a jamais été traitée, qui soudainement devient à nouveau problématique, qui est celle des contentieux maritimes avec la Chine, d'abord, mais également avec ses voisins d'Asie du Sud-Est, qui étaient des voisins lointains, jusqu'à ce que le Vietnam rentre dans l'ASEAN en 1995 et découvre sa façade maritime et découvre qu'il est un État qui est tourné vers la mer, qui est tourné vers l'Asie du Sud-Est, avec aucune expérience de tout cela pour un pays qui, pendant plus d'un siècle et demi, n'a vécu son devenir politique que dans un vis-à-vis avec l'Occident, la France pendant la colonisation, l'Union soviétique pendant ces périodes de guerre et de libération, les États-Unis pendant la guerre que l'on connaît tous. Donc voilà, le Vietnam ignorait tout de sa tradition maritime, ignorait tout de sa façade asiatique et de ses partenaires de l'Asie du Sud-Est. Donc il y a eu une sorte de grosse révolution de son appareil sécuritaire, de son armée populaire pendant ces années-là, avec soudainement le sentiment qu'il fallait que le Vietnam devienne une puissance maritime, et qu'il fallait que ce ne soit plus l'armée de terre uniquement qui est le prima. L'offensive du Cambodge, c'est l'armée de terre qui avait le prima naturellement. Désormais, les enjeux stratégiques tels qu'ils seront définis dans le premier livre blanc, et qu'on va retrouver par la suite, parce qu'il y a eu trois autres livres blancs que des gens comme moi ou d'autres personnes qui travaillent sur ce Vietnam contemporain suivent avec intérêt, hein, en 2004, 2009, 2019 pour le dernier. Et c'est intéressant de voir l'évolution de la menace qui matérialise la reconfiguration de l'appareil militaire vietnamien depuis 20 ans, et notamment autour des problématiques maritimes qui sont aujourd'hui des enjeux d'importance et aussi des enjeux à la fois militaires, des enjeux diplomatiques dans sa relation avec la Chine, mais également avec ses partenaires sud-est asiatiques. La mer de Chine méridionale et les territoires que le Vietnam occupe sont aussi revendiqués par ses voisins directs de l'ASEAN. Je pense aux Philippines, je pense à la Malaisie, je pense au Brunei notamment. Et ça, c'est le nouvel, paysage stratégique qui est à l'origine d'une reconfiguration de l'appareil sécuritaire vietnamien.
C'est intéressant, soit dit en passant, aussi toujours de voir les parallèles avec la Chine et avec cette armée de terre extrêmement prévalente, et puis petit à petit un appareil sécuritaire qui, au fur et à mesure des années 90 puis 2000, puis 2010, se tourne vers la mer, parce que c'est là que sont les enjeux. Mais alors justement, puisque vous l'évoquez, est-ce que vous pourriez... On va revenir dessus, parce que ça pose une question très intéressante, qui est notamment dans la montée des conflictualités dont on parle tout le temps entre la Chine et les États-Unis dans la région. Ça pose la question de comment se place le Vietnam par rapport à tout ça. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait revenir peut-être substantiellement sur... Voilà. On en parle souvent, mais en fait, on n'en parle quand même pas assez. Quel est le problème en mer de Chine du Sud? Pourquoi est-ce que tous ces États se disputent? Qu'est-ce qui se dispute? Et je peux vous demander qui a raison, mais en tout cas, où en est le statu quo, en tout cas pour l'instant?
Alors le problème, il est récent, même si effectivement chaque État riverain essaye depuis une vingtaine d'années de reconstruire un historique supérieur ou antérieur ou plus long que ses voisins et concurrents. Mais le Vietnam a commencé à se préoccuper de sa mer de Chine méridionale assez tardivement. Dans les années 70, un petit peu, quand il a vu que la Chine maoïste ou post-maoïste était en train de s'occuper véritablement des îlots du Nord, hein, les Paracels, qui ont été récupérés par la Chine militairement en 1974.
Juste, je veux dire, il faut regarder une carte, mais la mer de Chine méridionale, mer de Chine du Sud, on l'appelle parce que c'est au sud de la Chine, mais c'est vraiment ce qui, la mer qui fait face au Vietnam, c'est la mer qui est à l'est du Vietnam et qui est partagée, donc Chine, Vietnam, Philippines, tout à l'est.
Oui, mais alors, ça, on ne va pas faire parler de toponymie, mais vous imaginez bien que les Vietnamiens ne parlent pas de mer de Chine méridionale, hein. Ils parlent de mer du centre, bien non, la mer de l'Est, pardon, la mer de l'Est, et les Philippins ont une autre façon de parler de cette zone, et les Malaisiens également. Donc voilà, les pays occidentaux, ou en anglais, on utilise le terme de mer de Chine méridionale, mais c'est une mer qui est véritablement disputée, hein, qui comprend deux sous-régions, au nord les Paracels, au sud les Spratleys, et qui sont aujourd'hui majoritairement occupées, si on prend tous ces pays riverains, essentiellement par la Chine et le Vietnam, qui occupe le plus d'îlots, entre guillemets, parce que d'un point de vue droit international, il n'y aurait plus d'îles ni d'îlots, il y aurait des récifs qui sont en partie au cours de l'année immergés. Donc là, on fait partie, on redécouvre.
Donc rappelons, c'est vraiment des confettis, il n'y a pas de population dessus, etc. C'est vraiment juste des territoires émergés qui, du coup, fournissent la base. S'ils sont occupés, ça fournit la base à des revendications sur toutes les mers environnantes, et par contre dans les mers environnantes, il se peut qu'il y ait des choses intéressantes.
Alors plusieurs choses. D'abord, la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer, d'aller aussi rapidement, mais a poussé les États de la zone les a incités à peupler, quand c'était possible, en fait, ces îlots pour pouvoir revendiquer davantage d'espaces maritimes autour. Donc effectivement, les Paracels sont désormais, mais depuis peu de temps, en partie peuplés par des colons chinois qui se sont installés. Et les îlots, et nombreux îlots occupés par les Vietnamiens dans les Spratleys sont également peuplés. Souvent, c'est des petites garnisons militaires, ou parfois il y a même quelques grands patriotes qui s'y sont installés pour pouvoir montrer encore une fois qu'il y avait une légitimité, une capacité de ces îles à accueillir des populations. Ça, c'est la première chose. Ensuite, après, il y a les trois éléments qu'on utilise régulièrement pour pouvoir montrer et prouver le caractère stratégique de cette mer de Chine méridionale. Un, les recherches, les ressources halieutiques. Hein, il y a beaucoup de poissons qui permettent de nourrir les populations de ce bassin immense et démographiquement très peuplé. Ces fameuses réserves en hydrocarbures, gaz et pétrole, qui soi-disant seraient extrêmement nombreuses dans la zone. Donc ça, c'est pas complètement avéré. Il se trouve que aujourd'hui, on sait, parce que notamment le Vietnam en exploite beaucoup, mais une partie de ces réserves sont situées au large de Bornéo, tout au sud des Spratleys. Mais pour tout ce qui est le centre en fait de cette zone, les fonds sont assez profonds, les recherches sont pas encore menées, et il y a tellement de contentieux maritimes que ça rend compliqué en fait la conduite même de ces recherches. Donc ces ressources, c'est un peu un mythe qui est évoqué par les uns et les autres sur le fait qu'il faut absolument se préoccuper de cette zone. Non, je pense que le vrai problème, en fait, bon, après, il y a naturellement la question c'est une zone qui est traversée, en fait, par une zone de transit, hein, économique pour toutes les marines du monde entier. Donc ça intéresse tout le monde qu'il n'y ait pas une explosion du conflit dans cette zone, parce que ça impacterait nos économies à tous. Mais il y a un élément qui me semble-t-il, central, vraiment pour comprendre le caractère stratégique de la mer de Chine méridionale et l'intérêt des États de la zone pour taquiner son voisin et même éventuellement être prêt à couler un navire, le cas échéant, c'est les voies sous-marines. Aujourd'hui, pour Pékin, qui dispose de sa base de sous-marins nucléaires et classiques sur l'île de Hainan, il y a un enjeu qui est fondamental, qui est celui de pouvoir préserver son autonomie stratégique et son approvisionnement aussi dans le Proche-Orient à terme, si le détroit de Malacca est bloqué par les Occidentaux et par les Américains qui, depuis longtemps, ont modernisé et installé suffisamment de capteurs dans les ports de la zone pour pouvoir contrôler facilement ce détroit. Donc aujourd'hui, pour Pékin, stratégiquement, il faut pouvoir contourner ce détroit, pour pouvoir atteindre l'océan Indien et atteindre le golfe Persique. Donc il y a cette voie nord, qui est la voie à travers la mer de Chine méridionale, avec une dégageante ou via les détroits de l'Indonésie ou via le Pacifique un peu plus loin, qui lui permettrait encore une fois de préserver cette fameuse autonomie stratégique en cas de blocage sur la partie sud en fait de la mer de Chine méridionale, ce qui est une chose techniquement extrêmement facile à faire. Donc cette sous-marinade, elle a été positionnée au sud de Hainan et elle se promène très tranquillement dans des fonds discrets de la mer de Chine méridionale, mais soudainement elle a fait des petits parce que les pays de la zone se sont rendus compte de cette importance, de cette capacité en fait de frappe que pouvait avoir la sous-marinade chinoise dans la zone et de contrôle du transit en mer de Chine méridionale. Et on a vu tous les pays de la zone s'équiper récemment de sous-marins et essayer d'intervenir également, de les faire évoluer dans cette mer de Chine méridionale. Les Vietnamiens disposent d'une sous-marinade d'origine russe qui est basée dans leur base de Cam Ranh au sud Vietnam, mais les Malaisiens en ont également une dans l'état de Kota Kinabalu sur l'île de Bornéo. Là, les Indonésiens et également une toute nouvelle sous-marinade, les Singapouriens naturellement, etc. Donc, soudainement, c'est le contrôle de ces voies sous-marines est devenu un enjeu stratégique qui suffit véritablement à légitimer toutes les rhétoriques agressives dans la zone. Et, si vous me le permettez, un dernier élément qui est extrêmement important, il n'y a plus de guerre, vous l'avez évoqué en début d'émission, il n'y a plus de guerre ouverte entre des États qui sont censés collaborer au sein de l'association régionale, l'ASEAN, avec la Chine qui n'est pas qu'agressive dans la zone, qui au contraire, et on pourra y revenir, qui développe un autre type de discours, de dialogue avec de nombreux États sud-est asiatiques. Donc il faut cultiver l'idée d'une menace guerrière potentielle. Et il n'y a rien de mieux que la mer de Chine méridionale pour cela. Et le Parti communiste vietnamien, comme le parti au pouvoir aux Philippines ou en Malaisie, etc., instrumentalise aussi ces risques futurs de déflagration ou de dérapage d'un conflit potentiel en mer de Chine méridionale pour le bien en fait de sa politique intérieure, pour la préservation en fait du monopole du Parti communiste vietnamien. C'est le Parti communiste vietnamien qui protège le peuple vietnamien et qui protège ses intérêts en mer de Chine méridionale. Il y a 20 ans, il n'aurait pas tenu ce discours. Aujourd'hui, il le fait plus que tout parce que la mémoire de la guerre est en train de s'estomper. Elle est trop lointaine maintenant. Donc il faut, quoi qu'il arrive, encore la cultiver pour pouvoir renforcer la cohésion du peuple et leur permettre, encore une fois, de ne pas vouloir trop de choses. De se dire que voilà, ils ont un régime qui les protège, ils ont un parti qui s'occupe d'eux. Voilà, n'allez pas trop loin, il peut y avoir une guerre potentielle, donc nous on sera là, ne désorganisez pas le pays en voulant davantage de démocratie ou davantage, etc.
Alors, heureusement, on n'en est pas encore à de la guerre ouverte, on n'est pas à des batailles de sous-marins en mer de Chine du Sud, mais cela étant, il y a quand même des opérations, il y a quand même des incidents, alors vous l'avez dit un peu tout à l'heure, des fois ça coule un bateau, des fois il y a des flottes de pêcheurs qui viennent faire des blocus, enfin bon, il y a des trucs qui se passent, et en même temps, paradoxalement, il y a un côté, suffit de regarder une carte, bon, la puissance, et le décalage de puissance est assez manifeste entre le Vietnam, la Philippine, etc., et la Chine, qui est évidemment l'immense puissance de la région. Mais du coup, ça pose aussi la question à une échelle plus large, à une échelle planétaire, puisqu'il y a les États-Unis qui sont très intéressés par la région, qui sont très intéressés par le fait de ne pas laisser la Chine prendre pied totalement dans la région et manger en quelque sorte ses voisins. Et du coup, ça pose la question du Vietnam, de la manière dont il se place. Enfin, c'est vrai aussi des autres acteurs régionaux autres que la Chine, mais dans le cas du Vietnam, c'est particulièrement intéressant, puisque évidemment, il y a un immense passif à la fois vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis des États-Unis. Et disons, du jeu qu'ils peuvent jouer dans ce conflit, en tout cas cette opposition sino-américaine. Et disons, quelle est la place du Vietnam dans ce truc qui est quand même et commence à être le grand fait stratégique du 21e siècle, en tout cas depuis quelques années, qui est cette opposition très tendue, qui risque toujours plus de déraper, semble-t-il, entre Chine et États-Unis en Asie du Sud-Est, disons.
Alors là, il faut remettre beaucoup de nuances dans tout cela. Il y a une tendance à vouloir importer ou exporter une nouvelle guerre froide, en fait, dans la zone et faire en sorte qu'il y ait un paysage qui est en train de se positionner pour ou contre les uns, d'un côté les Américains et les autres de côté les Chinois. Quand on est dans cette région, quand on travaille avec des ressortissants de cette région, on voit que personne localement n'a envie d'importer ce conflit et que personne n'a véritablement envie, ou aucun État de la zone n'a véritablement envie de choisir réellement son camp. C'est souvent vu en fait comme des gesticulations qui viennent d'ailleurs, et les Sud-Est asiatiques sont assez pragmatiques, hein, ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas vivre sans les échanges économiques qui irriguent leur pays avec Pékin, qui sont très forts, on l'oublie un petit peu trop, vu d'ici, c'est que les diplomates chinois, les officiels chinois sont très souvent sur le terrain, ils sont en permanence dans le dialogue avec leurs homologues sud-est asiatiques, et on n'est pas dans une lecture, on va dire, de l'empire du mal contre l'empire du bien, ça n'existe pas là-bas. Tout le monde sait effectivement qu'il peut y avoir potentiellement une arrogance chinoise qui se matérialise dans les discours de préséance, dans les rapports entre... Mais là, on est beaucoup plus dans une logique culturelle de la vassalité entre l'empire du centre et sa périphérie. Mais aujourd'hui, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent en Asie du Sud-Est, aussi bien dans les milieux intellectuels, dans les milieux universitaires, dans les milieux politiques, qui refusent en fait cette bicéphalité en fait, ou cette contrainte du choix en fait que l'Occident semble leur porter. Vous êtes avec Oukus ou sans Oukus, et ces choses là en fait c'est des choses qui sont assez extérieures à la culture politique de nombreux États de la zone. Ils sont pragmatiques, ils sont assez court-termistes, et leur enjeu c'est effectivement de continuer en fait à permettre à leur population de s'enrichir, de commercer et de pas relancer le pays ou la zone dans un conflit qui n'est pas le leur.
Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vu les équilibres les rapports de force économiques, militaires, diplomatiques, etc. entre la Chine et les voisins, on mesure bien qu'il y a une sorte de loi de la gravité qui fait que si la Chine est les mains complètement libres dans la région, probablement que c'est une influence qui va de plus en plus grandir. Donc dans une certaine mesure, est-ce que les États-Unis, leur intérêt pour la région qui est avéré, ça permet pas, si ce n'est de faire monter les enchères, mais en tout cas ça permet pas d'avoir une sorte de contre-pied à l'influence régionale chinoise qui peut être intéressante pour des acteurs comme le Vietnam?
Le Vietnam, vous avez évoqué cette politique des trois noms, qui est aujourd'hui une politique des quatre noms, mais bon, c'est à peu près la même chose. Simplement, c'est permettre, encore une fois, et équilibrer les relations, la politique étrangère du Vietnam, et commercer et dialoguer avec l'ensemble des puissances sur l'échiquier international. Il y a une vraie volonté des élites politiques vietnamiennes de naturellement ne pas s'émanciper, parce qu'ils ne peuvent pas. Et il faut savoir aussi que l'avenir du Parti communiste vietnamien est en partie lié à celui du Parti communiste chinois. Donc, parce que c'est aussi une façon de percevoir les relations interparties. C'est aussi une façon, et j'ai pu l'écrire dans un article publié dans la revue Hérodote il y a quelque temps, pour la Chine d'irriguer économiquement en fait l'appareil politique vietnamien avec des séries d'aides parfois personnalisées, parfois plus globales. Mais c'est aussi une façon en fait dont la Chine conçoit et pérennise ses relations avec sa périphérie. Il n'y a pas de velléité, on va dire, expansionniste d'un point de vue militaire. En tout cas, c'est pas comme ça que les États de la zone voient la Chine. Ils voient naturellement, d'un plus mauvais œil, un autoritarisme, un unilatéralisme sur toute une série de questions qui feraient qu'ils auraient moins leur voix au chapitre. Mais on n'est pas dans une relation de repositionnement ou d'opposition ou de mise en place d'un camp anti-chinois en Asie du Sud-Est. Je crois que c'est, il y a beaucoup de et ça qui est étonnant, il y a beaucoup de voix qu'on entend qui mettent en avant que c'est un 21e siècle asiatique qui est en train de s'imposer et que les Chinois sont là tout le temps, et même s'ils sont parfois difficiles à gérer et arrogants, mais en même temps ils sont proches de la plupart des pays de la zone. Il y a des élites sino-vietnamiennes ou sino-thaï ou sino un peu partout dans la zone. Ça marche sur un fil, mais c'est pas, ces pays-là ne sont pas prêts à couper ce fil.
Mais donc c'est une sorte d'optimisme, en tout cas de la part de ces acteurs-là. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'objection majeure à ce que la Chine continue à prendre de l'importance régionalement et globalement, et que, pas une marée montante monte tous les bateaux, mais un peu, qu'il y a plutôt des choses à récupérer d'une montée en puissance de la Chine plutôt que à défendre un pied carré des intérêts, des territoires vis-à-vis d'une puissance qui est tellement, qui est une puissance globale dans une région, la mer de Chine du Sud, où il n'y en a qu'une.
Alors, si vous me permettez d'être extrêmement rapide, en deux phrases, la Chine, dans sa politique étrangère, a trois grands fronts à gérer. Le front en Asie orientale, qui est un peu compliqué, avec Taïwan, avec le Japon et la Corée. Son front sud, avec l'Inde, qui est également compliqué, parce que la Chine a affaire à un État extrêmement important, démographiquement et politiquement. Et puis, il y a le front de l'Asie du Sud-Est, qui, lui, est un front plus souple, plus mou, si vous me permettez, une région composée de 11 pays, donc divisée pour mieux régner. La diplomatie chinoise est complètement à son aise au sein du secrétaire général de l'ASEAN à Jakarta. Elle voit en bilatéral l'ensemble des pays. Il se différent de la mer de Chine méridionale, mais encore une fois, il n'existait pas franchement de manière aussi saillante il y a 30 ans, et puis il sert aussi à des objectifs politiques locaux qui comptent. Donc c'est compliqué. Mais en même temps, c'est pas le plus difficile. Et effectivement, de nombreux États de la zone travaillent parfaitement bien avec les autorités chinoises et n'ont pas envie de les voir disparaître du jour au lendemain parce qu'il y a un Américain qui débarque tous les trois mois pour leur dire que la menace chinoise est extrêmement importante. Non, on n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est, on l'est peut-être à la lecture de certains articles de think tank atlantistes qui sont un petit peu dans la logique post-guerre froide, mais la réalité sur le terrain, elle n'est pas comme ça.
Très bien, et ben merci beaucoup Benoît Tréglaudet, donc pour ce retour en arrière depuis les débuts, disons, de la colonisation française et même avant les débuts de l'identité nationale vietnamienne jusqu'aux côtés les plus contemporains de l'actualité en mer de Chine du Sud. Je rappelle donc votre dernier ouvrage, Vietnamien, ligne de vie d'un peuple, aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci beaucoup.
Merci Alexandre.
C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que tous les retours, notes et commentaires sont bienvenus sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, par mail ou encore par les outils, disons, de retour, de notes et de commentaires de SoundCloud ou d'Apple Podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.